alors que les autres intervenants se livrent exactement à la même tâche. Une telle logique est dite autoréférentielle. Fondamentalement, il s'agit de copier les comportements saillants ou supposés tels, c'est-à-dire ceux qu'on estime propres à être copiés par tous les autres. Tel est le principe de la rationalité autoréférentielle. Une caractéristique de ce processus est d'être capable de faire émerger des consensus plus ou moins durables qui structurent les croyances et les attentes du groupe. Ce qui pour moi est un intérêt important parce que par rapport à la théorie précédente, dans laquelle l'accord était postulé par l'idée d'une valeur objective, ici elle est créée par le mouvement même autoréférentiel du marché. Appliquée au marché financier, l'analyse autoréférentielle décrit une communauté active et anxieuse, interrogeant toutes les hypothèses et toutes les rumeurs pour déterminer celles susceptibles d'obtenir l'assentiment du marché. Ce processus d'exploration dégénère fréquemment en polarisation mimétique sporadique lorsque tel ou tel événement est sélectionné simultanément par un grand nombre d'acteurs en raison de sa saillance supposée, et cela indépendamment de son contenu informationnel réel. Il s'ensuit de fortes et soudaines variations de prix sans rapport avec les fondamentaux, et ça c'est testé empiriquement, on a bien ces différences de variabilité entre le monde réel et les cours que ne peut pas expliquer le modèle fondamentaliste. C'est là un mécanisme cognitif qui concourt puissamment à la volatilité excessive que connaissent les cours boursiers. Ce processus d'exploration mimétique peut cependant se stabiliser durablement lorsqu'une interprétation finit par recueillir l'adhésion généralisée du marché. Dans ces conditions peut émerger un modèle d'évaluation reconnu par chacun comme légitime, ce qu'on appellera une convention. C'est de cette façon, pensons-nous, que le groupe autoréférentiel surmonte provisoirement son déficit de référence objective. Tant que la convention est acceptée, la dynamique spéculaire, qui consistait à penser ce que font les autres, est notablement simplifiée, puisqu'alors, pour prévoir ce que les autres vont faire, il suffit de se reporter à ce que la convention prévoit. Par le jeu de l'auto-validation des croyances, il s'ensuit une relative stabilité de la convention, qui devient pour les agents comme une seconde nature. Cependant, si les prévisions conventionnelles sont trop éloignées de ce qui se produit effectivement, la convention d'évaluation est remise en question, ce qui déclenche un nouveau processus d'exploration mimétique. Maintenant, j'en suis à la fin de ma première partie, donc où j'ai présenté ce fonctionnement autoréférentiel de la finance à partir des concepts de liquidité et d'évaluation financière. Et maintenant, je voudrais voir comment, effectivement, à partir de là, ça nous dit quelque chose sur le fonctionnement du capitalisme financier. Donc, ma troisième partie sera intitulée « Le pouvoir actionnarial ». Comme nous l'avions indiqué déjà en introduction pour dire que c'était notre point central, il convient de bien distinguer ce qu'on peut appeler le pouvoir de la finance ou le pouvoir actionnarial, à savoir le pouvoir que confère la détention d'actions négociables sur un marché liquide, le pouvoir de la liquidité, pourrait-on dire, d'un autre pouvoir auquel souvent on l'identifie spontanément, à tort, à savoir le pouvoir que confère la propriété majoritaire du capital. Cette distinction est cruciale entre, d'une part, l'exercice plein et entier de la propriété dont jouit l'actionnaire principal lorsqu'il contrôle effectivement le capital d'une entreprise, et d'autre part, les droits limités de l'actionnaire minoritaire. Ce qu'on a appelé le capitalisme rhénan ou le capitalisme français traditionnel était construit autour du contrôle majoritaire. Du côté rhénan, par le jeu des banques universelles et de leur réseau d'alliances. Du côté français, je parle après le retrait de la puissance publique et les privatisations des années 80, autour des noyaux durs et des participations croisées qui avaient constitué un actionnariat stable de contrôle. Lorsque les rapports de propriété sont ainsi verrouillés, la liquidité financière ne joue plus qu'un rôle marginal puisqu'une grande proportion des actions dévolues au contrôle ne circulent plus. Les restructurations sont alors réalisées hors marché, à l'issue de négociations qu'on pourrait dire politiques, par cession des blocs de contrôle. Si l'on considère le cas des États-Unis d'avant 80, qui est encore un peu différent, mais qui confirme néanmoins mon analyse, dans la mesure où on y observe on y observe centralement un actionnariat dispersé et qui était à l'époque un actionnariat sans puissance, effectivement, dans lequel on a vu la constitution d'un pouvoir managérial fort et d'un pouvoir actionnarial subordonné. Ce qui montre bien que cette dispersion pose problème pour le contrôle. Ce qui a modifié radicalement la situation, comme nous le savons bien, c'est le développement de la gestion collective. Désormais, les investisseurs institutionnels gèrent la majeure partie des actifs financiers placés sur les marchés. C'est cette transformation qui a conduit à l'émergence d'un véritable pouvoir actionnarial, non pas fondé sur le contrôle majoritaire, car ce n'est pas le but de la plupart de ces fonds, mais fondé sur la liquidité, c'est-à-dire sur le marché, et non sur la propriété directe. Ma question, c'est quelle est la nature de ce pouvoir paradoxal qui exercerait les actionnaires minoritaires et qui ne pose pas par le contrôle du capital? Et la réponse que je propose, c'est un pouvoir qui a pour vecteur l'évaluation publique. Que l'évaluation publique puisse constituer une force par elle-même, il n'est pour s'en convaincre qu'à observer l'influence décisive qu'exercent les agences de notation, alors même que ces institutions ne gèrent aucun fonds. Donc c'est un bon exemple d'une puissance en dehors du contrôle, puisqu'elle n'a pas de fonds. La seule modification d'une note, hein, ils notent les entreprises, d'une note a des répercussions multiples, qu'il s'agisse de l'accès au crédit ou de la réputation de la société ou, lorsqu'il s'agit d'un pays, du pays considéré. Pourquoi ? Parce que cette note est utilisée comme norme de référence par l'immense majorité des acteurs financiers et bancaires. C'est alors une réaction coordonnée de l'ensemble du marché qui est produite. Clairement, les agences de notation tirent leur pouvoir de leur capacité à modifier les normes collectives de l'évaluation. Face à cette capacité d'influence, l'entreprise se trouve en position de grande faiblesse, puisque à la fois dans ses inputs, outputs et actionnaires, les gens se coordonnent à partir de cette note. Et on comprend qu'elle soit obligée de s'adapter. Donc c'est ça l'idée de ce pouvoir actionnarial d'un type particulier qui passe par l'évaluation publique comme les agences de notation. Je pourrais dire qu'on a vu encore dans la crise des subprimes, les agences de notation, comme vous le savez peut-être, ont joué à nouveau un rôle central, car la titrisation des crédits à elle seule n'aurait pas suffi. Il a été important que les agences de notation notent ces titres comme étant des titres fiables et stables pour que la plupart des institutions d'investissement les acceptent. Et donc, elles ont joué un grand rôle dans l'acceptation et la diffusion de ces titres dont on sait maintenant qu'ils n'étaient nullement fiables et qu'ils étaient beaucoup plus risqués qu'ils n'étaient anticipés. D'ailleurs, le plus souvent, comme souvent dans les marchés financiers, les agences de notation se présentent souvent comme des agents qui anticipent, et lorsqu'on regarde un peu ce qu'elles font sur le passé, elles sont plutôt des agents qui diffusent et qui propagent quelque chose qui a déjà été créé dans l'opinion publique. Et comme on dit, elles ne sont pas du tout contracycliques. Au contraire, elles ont toujours tendance à aller dans le sens du marché. Quand tout va bien, elles augmentent les notes, et quand tout va mal, elles les baissent. Elles ont un caractère encore plus déstabilisant, puisqu'elles rajoutent aux difficultés, sans les prévenir, pour des raisons qu'on pourrait étudier. Tel est donc l'essence du pouvoir financier. C'est un pouvoir d'influence qui contrôle les entreprises en les soumettant à un jugement certifié faisant l'objet d'une large publicité au sein de la communauté financière. Il s'agit de persuader les investisseurs en mobilisant les conventions d'évaluation dominantes dont j'ai parlé, qui s'étaient formées par le marché, car évidemment dans le cadre de la théorie précédente néoclassique, étant donné que la valeur est une donnée objective, l'idée d'une influence sur la valeur n'a pas sens. Donc il faut bien avoir développé cette idée d'évaluation collective et de convention pour pouvoir la manier. Donc de cette façon, à mon sens, le marché s'impose comme une puissance collective d'évaluation. Les informations publiques livrées périodiquement par les firmes jouent dans ce dispositif un rôle clé, puisque c'est grâce à elles et aux interprétations qu'elles permettent que le marché se coordonne. On peut, à la limite, parler d'un pouvoir médiatique pour qualifier cette forme d'interventionnisme qui repose sur la conviction des foules financières à partir de révélations publiques. L'idéal, au fond, pour l'actionnaire minoritaire, serait de pouvoir réduire l'entreprise à un ensemble de grandeurs standardisées permettant une évaluation de l'extérieur dépourvue de toute ambiguïté. De cette façon, les entreprises feraient l'objet d'une surveillance externe sans faille. Nul besoin alors d'immobiliser durablement la richesse, ce qui est très coûteux, afin de contrôler le capital. Face à cette menace, dans laquelle, d'ailleurs, on reconnaît l'essence de ce que j'ai appelé la liquidité, l'évaluation collective, qu'est-ce qu'on peut opposer? Qu'est-ce que les cadres dirigeants ont pu opposer? C'est au contraire le caractère opaque de l'immobilisation, pour reprendre cette dualité entre liquidité et immobilisation par lequel je commençais mon propos. Les cadres dirigeants font valoir qu'il est impossible pour un observateur extérieur de savoir ce que vaut réellement une firme. Seules les directions d'entreprise possèdent les informations et les savoirs qui permettent cette évaluation. C'est là une ligne de défense qui, un temps, a permis aux technostructures d'asseoir leur pouvoir face aux actionnaires. Et il n'en est plus de même maintenant. Je vais finir par une dernière partie, à partir de ça, qui est plus, je dirais, conjecturale. D'abord, je ne parlerai pas ici, je ne parlerai pas ici des effets macroéconomiques du pouvoir actionnarial. Maintenant, j'en arrive à un point où j'essaye de voir ces quelques effets. C'est pas mon but. Je dirais simplement que c'est pourtant un point tout à fait important, et que ce qui est important, c'est dans la macroéconomie contemporaine, c'est le niveau exacerbé des exigences de rentabilité qui est produite par cette structure. Hein, et que, pour partie, à la fois les bulles financières et le chômage sont des effets de ces exigences de rentabilité démesurées. Pour les bulles, on le voit dans la mesure où c'est un aiguillon à essayer à prendre des risques de plus en plus grands, de façon à trouver des taux de rentabilité de plus en plus élevés. Pour le chômage, c'est lié à un effet que les économistes ont classiquement repéré, c'est que lorsqu'on demande des exigences de rentabilité très, très élevées, il y a peu de capitaux qui sont capables de les remplir, et donc ça crée mécaniquement une contrainte sur l'investissement qu'on voit bien aujourd'hui. Je dirais, par rapport à ce rôle, le seul équivalent qui m'est venu en tête en préparant cet exposé, ça aurait été les couches rentières, le poids des couches rentières au XIXe siècle dans leur action sur les taux d'intérêt de la dette publique. Il y a quelque chose d'un peu peut-être similaire, je ne sais pas, qu'il faudrait travailler sur ces puissances qui, et l'une et l'autre, passent par le marché. Sinon, je ne vois pas, dans ces exigences de rentabilité, je ne vois pas ici d'exemple, au moins au XXe siècle, de telle concentration d'évaluation et d'une telle puissance de l'évaluation. C'est pas ça donc qui m'intéressera, c'est plutôt, disons, les effets du pouvoir actionnarial sur la société dans son entier, car il me semble qu'on assiste à une redéfinition en profondeur des formes de la solidarité sociale, et c'est ces transformations, et ce que j'ai proposé d'appeler individualisme patrimonial, justement dans l'article dont Patrick parlait tout à l'heure, que je voudrais présenter. Alors c'est beaucoup plus conjectural, il s'agit au fond de penser les tendances actuelles et d'en grossir le trait, de les systématiser pour voir quel type de société nous aurions si rien ne change. C'est un peu risqué comme argumentaire, mais au fond c'est plutôt du type idéal typique, mais ça permet peut-être de mieux voir les spécificités de l'analyse que j'ai présentée ici. Et pour ce faire, je propose de partir de la question des retraites et de l'opposition entre le système par répartition et celui par capitalisation, merci, pour en analyser les caractéristiques. Et ça va me permettre de distinguer deux formes d'individualisme et donc de mettre en évidence ces traits spécifiques de l'individualisme patrimonial conjectural dont je parlais. Alors, le système par répartition donne à voir une logique de solidarité centrée d'abord sur le salariat, puis étendue à d'autres catégories selon un processus d'élargissement qui tend in fine à faire reposer les droits sociaux sur la seule appartenance citoyenne. Au-delà des organismes paritaires, c'est fondamentalement l'État qui est le garant des retraites. Au cœur de la logique de répartition, on trouve l'idée selon laquelle la dette sociale procède de la citoyenneté. Et c'est pour cette raison que je propose de parler, à propos de cette configuration de valeurs, d'individualisme citoyen. C'est donc une conception qui identifie les droits individuels à ceux du citoyen salarié et qui donne pour mission à l'État, garant de l'ordre public social, de les protéger. Il est d'ailleurs intéressant de noter que cette mission de l'État s'inscrit, me semble-t-il, dans la stricte continuité du rôle qu'assume traditionnellement l'État en tant que défenseur des frontières et de l'intégrité.